Vous l'avez bien dit ici, les premiers ennemis de l'État islamique ou de Daesh, comme on pourrait le croire à tort, ça n'est pas l'Occident mais bien les musulmans. Mais attention, pas tous, les musulmans appartenant à la branche chiite de l'islam. Et en effet, comme on va le voir maintenant, Daesh, c'est une organisation en guerre contre des mondes bien définis par la rhétorique de son calife, Abou Bakr al-Baghdadi. Daesh développe une vision très manichéenne du monde. Il incarne le camp du bien auquel appartiennent les salafistes djihadistes et se déclare en lutte contre le camp du mal que représentent pour lui les mécréants, c'est-à-dire les musulmans chiites ou les autres confessions, les hypocrites, soit tous les dirigeants arabes corrompus par l'Occident, et enfin les États-Unis et la Russie qui représentent les principaux ennemis étatiques. L'État islamique, dès sa naissance en tant qu'État islamique en Irak, soit dès 2006, s'évolue dans sa genèse comme la réponse des plus radicaux de la branche sunnite irakienne. Il a étendu ensuite son emprise sur les pays voisins et les courants sunnites correspondants pour s'affirmer dans sa lutte contre les chiites. C'est la grande division de l'islam qui est au cœur de la religion musulmane qui, aujourd'hui encore, fait sentir son influence. Alors de fait, c'est une question un peu naïve, mais ça peut nous sembler étrange à nous, dans nos sociétés déjà, dirons-nous, laïcisées, qu'aujourd'hui les sociétés arabes soient encore à ce point marquées par ces guerres de confession.
Mais est-ce que le nationalisme arabe n'y avait pas mis fin dans les années 90 ?
Oui, bon, avec Nasser, on a eu la naissance dans ce grand courant nationaliste arabe qui voulait faire l'unité du monde arabe, enfin autour de l'Égypte. Hein, c'est-à-dire que tous les dirigeants arabes voulaient bien faire l'unité du monde arabe, mais autour d'eux. Hein. Après Nasser, ça a été Saddam Hussein qui voulait le faire, ensuite Hafez al-Assad, etc. En fait, c'était un petit peu une utopie mobilisatrice, là aussi, pour cacher les véritables problèmes de gestion qu'on avait dans les pays arabes. Lorsque le mode de développement impulsé par ces régimes a été à bout de souffle, fin des années 80, que l'Union soviétique s'est écroulée. Ils ont donc dû changer d'idéologie. À partir de là, on a eu une réislamisation, évidemment, de la société, puisque on avait pu cette société arabe, socialiste, idéale, qui se profilait à l'horizon, notamment avec la chute de l'Union soviétique, et plus qu'un seul modèle donc, qui dominait le monde. Et ça a été la porte ouverte donc à la réislamisation sunnite comme chiite. Les sunnites liés à Al-Qaïda, au mouvement islamiste, récupérant finalement l'anti-impérialisme qu'on avait également dans les mouvements marxistes qui s'étaient développés auparavant, y compris dans le nationalisme arabe.
D'accord. Alors on va maintenant s'intéresser aux modalités de cet affrontement de Daesh en lutte contre les autres confessions musulmanes. Présent aujourd'hui en Irak et en Syrie, le principal objectif de l'État islamique reste de prendre le contrôle de l'ensemble du monde arabe et musulman, quitte à provoquer le chaos dans l'équilibre instable de la région. Pour preuve, la mise à mort d'un pilote jordanien brûlé vif dans une cage qui a déclenché un vent de colère dans le monde arabo-musulman. C'était le 5 février dernier et le quotidien indépendant jordanien L'Avenir titrait le lendemain « Mort à Daesh, nous nous vengerons », saluant la reprise et l'intensité des frappes jordaniennes contre l'EI. Au Caire, même réaction de la part du grand imam de la mosquée Al-Azhar, réclamant même l'application de la charia contre Daesh. À Beyrouth, au Liban, même réaction de colère et d'indignation. Autrement dit, Abou Bakr al-Baghdadi semble avoir réussi à mobiliser contre lui une opinion arabe qui est depuis longtemps habituée aux charniers et aux fosses communes irakiennes, syriennes ou autres. Alors Daesh se distingue en effet par sa cruauté et ses exécutions sans merci, tuant par exemple les soldats irakiens qui se rendaient aux djihadistes dans l'espoir de sauver leur vie, sur le simple principe qu'ils avaient résisté dans un premier temps. Et plus largement, l'organisation revendique nombre d'attentats perpétrés dans un but de déstabilisation, donc on a bien vu la Tunisie, le Yémen, la Libye en plein chaos, etc. Alors face à cela, selon vous, Fabrice Balanche, y a-t-il un espoir pour que les pays musulmans s'unissent malgré leurs divisions pour lutter contre Daesh ? Je pense notamment à la Ligue arabe, qu'on entend finalement assez peu. Est-ce qu'elle a un rôle aujourd'hui dans ce conflit régional ?
Bon, la Ligue arabe, c'est une coquille vide. Il ne faut absolument pas tenir compte des déclarations de son président, qui est payé soit par le Qatar, soit par l'Arabie saoudite, et qui est juste une courroie de transmission de la puissance dominante. Alors, jusqu'en 2013, ça a été plutôt le Qatar, après c'était plutôt l'Arabie saoudite. Il ne faut absolument y accorder aucune importance. En revanche, ce que vous avez dit sur le pilote jordanien, la colère dans le monde musulman, la colère officielle, la colère des élites, du grand mufti, etc. Mais dans la population, ça a été complètement différent. Il ne faut pas sous-estimer la popularité de Daesh chez les masses sunnites.
En dehors de l'Irak et de la Syrie, donc.
Oui, en Jordanie, en Égypte, même au Liban. J'étais au Liban en septembre dernier. Mm-hmm. Et ce que j'ai pu voir dans la communauté sunnite libanaise m'a fait un peu froid dans le dos. Non, il y a un divorce véritablement entre les élites, entre la presse même indépendante, les élites intellectuelles, et puis ce que pense la grande masse de la population. Daesh est extrêmement populaire. Ce pilote jordanien, certes, il y a eu des manifestations en Jordanie, pas très nombreuses, hein, à Kerak, le fief de la tribu auquel appartenait ce pilote, à Amman avec la reine Rania en tête, mais dans les périphéries d'Amman, vous aviez plutôt de la sympathie pour Daesh contre le pilote. On accuse, le petit peuple jordanien accuse le roi de s'allier avec les États-Unis, c'est-à-dire le soutien d'Israël, contre un mouvement musulman. Mmh. Et ça, c'est impardonnable pour la monarchie jordanienne, d'après la majorité de la population jordanienne qui est d'origine palestinienne. D'accord. Donc il faut bien prendre ça en compte, hein, c'est que Daesh est populaire, malheureusement, dans les masses sunnites au Moyen-Orient.
D'accord. Alors, non content de s'en prendre à leurs propres frères musulmans, les terroristes de Daesh s'en prennent, logiquement, si j'ose dire, aux différentes minorités religieuses non musulmanes également présentes dans la région. C'est un produit de l'histoire dans ces pays-là et on observe des populations très hétérogènes dispersées sur plusieurs pays.
Des djihadistes de l'État islamique se sont emparés hier de Sinjar, une ville de 310 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres de la frontière syrienne.
Désormais dans les villages kurdes du nord de l'Irak, l'État islamique continue ses exactions et massacres.
L'ONU dénonce une tragédie humaine. 200 000 personnes ont dû fuir Sinjar en quelques heures.
Alors on vient d'entendre un extrait du documentaire diffusé en 2015 par Arte et produit par Jérôme Fritel, intitulé « Daesh, naissance d'un État terroriste ». Alors un état des lieux rapide de la situation, les Kurdes représentent 8% de la population en Syrie, 20% de celle de l'Irak. Et puis on a aussi des minorités religieuses présentes depuis l'Antiquité, les chrétiens chaldéens qui représentent 10% de la population en Syrie et 5% en Irak, les yézidis, un peuple kurdophone aux croyances syncrétiques qui sont poussés à errer dans le mont Sinjar, et aussi les zoroastriens, les turkmènes et les chabaks que Daesh aspire à éliminer en tant qu'éléments impurs. Ils sont ainsi promis au massacre, au viol et à l'esclavage, et ses habitants fuient en masse. L'ONU, l'Union européenne et la Ligue arabe ont parlé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc Daesh s'en prend aux minorités religieuses non musulmanes, et le viol des femmes yézidis transformées en esclaves sexuels en est un exemple qui fut très médiatisé. Le sort réservé par Daesh aux enfants de ces minorités est peut-être moins connu. Il n'en est pas moins horrible, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, alors en même temps Céline, qu'est-ce qui ne relève pas du registre de l'horreur avec Daesh ? Bon, je ne vais pas verser dans le sensationnalisme pour autant, chers auditeurs. Et pour évoquer le sort des enfants de ces minorités, pas d'image choquante, hein. On n'est pas à la télé, pas de duplex depuis un charnier, je ne m'appelle pas Louis Baudin, mais la réalité de l'horreur crue à travers la neutralité des mots d'un rapport sorti le mercredi 4 février dernier et rédigé par les 18 membres du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies qui dénonce, je cite, « l'assassinat systématique d'enfants appartenant à des minorités religieuses ou ethniques par des membres de l'organisation de l'État islamique, y compris plusieurs cas d'exécution de masse de garçons ainsi que des décapitations, des crucifixions et des ensevelissements d'enfants vivants. Bienvenue en Irak et en Syrie, chers auditeurs. »
Alors le rapport souligne plus particulièrement le sort des enfants appartenant aux minorités.
Oui, au premier rang des victimes, Céline, les enfants des communautés yézidis et chrétiennes. Génocidaire, le groupe terroriste fait néanmoins des exceptions. Certains enfants appartenant à des minorités religieuses ou ethniques ne sont pas tués, mais une fois capturés, ils sont vendus sur des marchés avec sur eux des étiquettes portant des prix. Ils ont été vendus comme esclaves donc, assure le comité des droits de l'enfant. L'État islamique exerce par ailleurs des violences sexuelles systématiques et pratique l'asservissement sexuel des enfants.
Et preuve de cet embrigadement, Thomas, de nombreuses vidéos qui sont diffusées sur Internet.
Oui, on peut y voir de très jeunes enfants, 8 ans par exemple, parfois moins, habillés de façon militaire, qui apprennent le maniement des armes. Évidemment, il faut rester prudent avec ces vidéos. Elles sont des objets de propagande construites, scénarisées par Daesh pour avoir un impact sur l'Oumma, certes, mais peut-être davantage sur l'opinion occidentale. Je vous précise, chers auditeurs, qu'avec Céline, nous avons choisi de ne pas voir les vidéos que nous allons évoquer dans cette émission pour ne pas céder au voyeurisme et pour ne pas participer, même de manière passive, à la propagande de Daesh.
Alors justement, Thomas, comment faut-il considérer ces vidéos choquantes qui mettent en scène des enfants ?
Alors, il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant ce que l'on trouve dans ces vidéos. Néanmoins, l'embrigadement dans l'armée des mineurs, c'est une réalité et les rapports de l'ONU, ils se fondent sur d'autres sources et d'autres preuves que ces seules vidéos. Grâce à elles, grâce à ces autres sources, le rapport, il montre comment les mineurs irakiens, qu'ils soient sunnites ou qu'ils appartiennent à des minorités, sont utilisés par le groupe islamiste pour commettre des attentats suicides, pour jouer le rôle d'informateur ou pour servir de bouclier humain chargé de protéger des installations, des bombardements de la coalition emmenée par les États-Unis.
Et du côté du gouvernement irakien ?
Ben, c'est pas vraiment mieux, on est loin d'être exemplaire. De précédents rapports des Nations Unies avaient en effet relevé que des mineurs étaient obligés d'être de faction à des postes de contrôle tenus par les forces gouvernementales ou que d'autres étaient emprisonnés dans des conditions difficiles à la suite d'accusations de terrorisme.
Pas bien glorieux en effet. Dernière question Thomas, elle va peut-être sembler un peu naïve. Le Coran autorise-t-il le meurtre des enfants ou leur embrigadement dans l'armée ?
Non, c'est tout sauf naïf, Céline. Quand on songe que Daesh a proclamé le califat et que son chef al-Baghdadi agit comme vicaire d'Allah et successeur du prophète. Et la réponse est évidemment non. Dans deux des six plus grands recueils de hadith, c'est-à-dire deux des six plus grands recueils qui comprennent l'ensemble des traditions relatives aux actes et aux paroles de Mahomet, Muhammad et de ses compagnons, en l'occurrence le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, on trouve cette citation « Ne tuez ni les hommes âgés, ni les petits-enfants, ni les femmes ». Ce sont respectivement, si vous voulez vérifier, les hadiths 3015 et 1744. Mais peut-être que Daesh ne connaît pas très bien la parole de Muhammad.
Alors on vient d'entendre la manière dont sont traités les enfants yézidis, Fabrice Palanche. Beaucoup sont condamnés à l'exil, tout comme leur peuple, sans grand espoir de retour. Mais sur le long terme, à votre avis, y a-t-il encore une lueur d'espoir pour le peuple chrétien au Moyen-Orient, pour les minorités aussi en général ? Pourrait-il retrouver un semblant de sécurité un jour, peut-être dans un après-Daesh, où le retour leur est vraiment interdit ?
Disons que les chrétiens au Moyen-Orient sont dans un processus historique d'élimination, depuis le génocide des Arméniens, dont on commémore plutôt le centenaire cette année. En Irak, vous aviez jusqu'en 2003 à peu près 10% de chrétiens. Aujourd'hui, on est à moins de 2% et pas 10% comme on peut encore l'entendre. Essentiellement dans la zone kurde, au nord. En Syrie, il y avait 5% de chrétiens en 2005. En 2011, aujourd'hui, la moitié de la communauté chrétienne est partie de peur du massacre. On va vers une élimination systématique, de toute façon, des minorités chrétiennes en Syrie et en Irak, notamment dans les zones où prospèrent ces mouvements islamistes. Alors, sur Daesh, comment il fonctionne ? Certes, l'islam, le Coran, condamne ces atrocités. Moi, j'invite les auditeurs à relire Maxime Rodinson, la biographie de Mahomet, et vous apercevrez que la conquête arabo-musulmane des premières années, avec Mahomet en tête, ce que décrit Maxime Rodinson, c'est exactement ce que Daesh fait aujourd'hui. L'esclavage, la vente des vaincus, l'élimination des hommes, c'est ce qui s'est produit au moment de la conquête islamique. Et Daesh, justement, s'inspire de cette conquête islamique. Daesh est un mouvement salafiste qui veut revenir aux premières années de l'islam. Et donc, ils font exactement la même chose. Et cela dit, ce n'est pas... C'est choquant pour nous, mais finalement, pour les Saoudiens, où cette histoire est racontée dans des livres scolaires, ce n'est pas choquant, parce que c'est justement ce qu'on leur a inculqué. C'est comme nous si on glorifiait les croisades et la prise de Jérusalem par les croisés qui ont massacré toute la population. Si on avait des livres d'histoire qui relataient l'histoire des croisades de cette manière et qui nous encouragent à refaire la même chose, on ne trouverait pas cela choquant. Donc il y a tout un problème aussi d'enseignement au Moyen-Orient pour arriver à couper l'herbe sous le pied de Daesh.